Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en cette fin du mois d'avril, où nous allons aujourd'hui vous parler de cette chose absolument étonnante que sont les marchés pour vous dire qu'on n'y comprend rien. Alors, jusqu'à présent, vous allez me dire, ah bah oui, mais quoi de nouveau? En effet, quoi de nouveau? Ça fait quand même 60 ans que celui-là essaie d'y comprendre quelque chose et qu'il y comprend toujours rien.
Ça dépend, il y a des moments où je comprends un
mais
peu.
Mais là, c'est des moments où on comprend particulièrement rien et on va vous dire pourquoi. Spécifiquement sur le marché obligataire. Alors là, même chose, vous allez me dire, ah mais le marché obligataire, Charles Gave, ça fait des années que vous en parlez, vous dites que ça va pas bien et ainsi de suite. Bah oui, bah on confirme. Alors, on va vous expliquer pourquoi. Alors, pour les autres, je rappelle que le marché obligataire, quand on parle des obligations chez nous, c'est évidemment toujours les obligations d'État. Hein. Quand on parlera peut-être un jour des obligations d'entreprise, on vous le fera savoir avec une pancarte.
C'est un peu quelque chose d'un peu... L'obligation d'entreprise, vous avez le risque du temps et vous avez aussi le risque du crédit. Alors le risque du crédit, il faut avoir des dizaines d'analystes qui vérifient, donc c'est difficile à faire.
C'est un autre métier. C'est les gens qui font des valeurs.
Ils peuvent aussi bien faire des actions, si j'ose dire.
Voilà. Bon. Quand vous achetez une obligation d'État, vous avez deux choses. Vous avez, d'abord, c'est un contrat. Et ensuite, vous attendez de cette obligation d'État un revenu nominal régulier qui est égal au rendement de l'obligation le jour où vous l'avez acheté.
Vous attendez votre taux d'intérêt. Vous l'avez loué. C'est comme si vous louiez un appartement, voilà. Vous touchez un loyer.
Et vous attendez normalement un remboursement à la fin du contrat.
Voilà, si vous avez que le type s'en aille, qu'il n'y ait pas de squatter, quoi.
Et ça, c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire que si vous avez prêté, vous avez acheté des obligations d'État de l'État suisse, il est certain que vous vous dites, bon, ben, la Suisse va bien, il n'y a pas de problème, j'ai une visibilité à 2000 ans, en tout cas, mes actions seront sûrement là après moi. Mes obligations, ouais, c'est
oui.
Ce que j'ai dit, non ?
Actions, je
crois. Ouais, bon. Mes obligations seront là après moi. En revanche, là, aujourd'hui, se pose la question de l'obligation française, pour ne prendre qu'elle. Anglaise, américaine, italienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de l'obligation, alors pour X, Y, Z raisons sur lesquelles on va revenir, la politique des taux bas de M. de Bernanke, de cette espèce de connivence aussi qu'il y a avec les banquiers centraux, qui sont un petit peu des marchands d'opium, parce qu'ils entretiennent quand même, malgré eux, un marché...
Ils ont oublié leur vrai... responsabilité qui est de garantir la solidité de la monnaie et la possibilité pour les petites gens d'épargner dans la monnaie sans prendre aucun risque. Et on voit bien que depuis 10-15 ans, ce truc a été remplacé par « il faut qu'on fasse une politique qui nous permette de continuer nos folies social-démocrates, de faire travailler, de faire payer, de prendre de l'argent à des gens qui travaillent pour le donner à ceux qui ne travaillent pas, etc. » Donc, les banquiers centraux sont devenus les instruments d'un maintien d'un système économique qui n'est pas stable. Et donc, c'est exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire.
Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice entre banquiers centraux qui est de dire « Oui, mais de toute façon, on va garder une économie avec une inflation entre 2 et 3% et le marché obligataire suivra. » Et le marché obligataire a tendance à dire « Ah bon, on suivra ? Oui, oui, vous suivrez. Ah bon, d'accord. »
Quelques graphiques ont montré que les marchés obligataires, mettons, des gens chez qui les Américains ont des bases qui ont suivi, oui. Militaires, les marchés obligataires suisses ou chinois, beaucoup moins. Donc ça veut dire que dans les pays où on garde des banquiers centraux sérieux, là, qui sont aujourd'hui, si j'ose dire, la Chine et la Suisse, il y en a un qui est très grand, l'autre qui est très petit, ça fait un petit moment qu'ils n'achètent plus d'obligations de ces pays-là.
Et du reste, c'était aussi une remarque que probablement la tenue des marchés des actions était aussi faite du fait que les gens se disaient « je veux tellement pas d'obligations qu'en fait j'achète des actions ». Donc est-ce que...
Il y a ça aussi, c'était là aussi. Il y a eu une espèce de fuite devant la monnaie, devant les obligations, qui ont fait que, je l'ai montré 10 fois, que... D'habitude, depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu vois, les obligations, les actions étaient une espèce d'horizontale comme ça, de temps en temps d'acheter des obligations quand elles étaient pas chères, et puis tu vendais les actions, etc. Et puis depuis, on est parti, les actions sont parties en hausse.
Voilà, il y a une décorrélation entre les deux, c'est-à-dire que normalement, vous vous dites, on est sur un 60-40, 40-60, 60-40, puis tout à coup, tu te dis, plus personne veut d'obligations. C'est vraiment le mystique gris, c'est vraiment le valet de pique.
Exactement. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est que... On fait ces émissions depuis 5-6 ans, je sais pas combien, par là, 6 ans. Et les gens ont peut-être commencé à comprendre la façon dont on essayait de penser, quoi. Parce que la pensée, c'est quand même un truc très compliqué. Et alors, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que dans le fond, les marchés financiers, il y a trois choses, il y a trois systèmes hein, qui s'imbriquent. Le premier, c'est le système économique. Fabriquer des voitures, les vendre, faire... Bon, système économique. Et puis le deuxième, c'est le système financier. C'est, tu sais, les actions, les obligations, le... Bon, tout ça aussi, c'est très compliqué. Et puis le troisième, c'est le système monétaire. La banque centrale, les taux d'intérêt à court terme et tout. Et ces trois systèmes qui sont très compliqués, chacun... Et en plus, comme ils se mélangent les uns aux autres, ça arrange pas la simplicité de la pensée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu avais trois poupées russes, mais tu sais pas laquelle est la plus grosse, laquelle est la plus petite, laquelle il faut mettre dedans, de temps en temps. Donc, bref, c'est un merdier total. J'en ai parlé avec des spécialistes des systèmes, et qui m'ont dit que ce qu'il y avait d'embêtant avec le système économique, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait des rétroactions dans tous les sens. C'est-à-dire que la banque centrale fait quelque chose auquel tu t'attends pas. Pan, ça va avoir un effet sur le système économique, mais aussi sur le système financier, tu vois. C'est-à-dire le système monétaire, ou bien alors, il se passe une famine ou un tremblement de terre, pan, ça va avoir des actions sur les deux autres. Donc il y a des rétroactions comme ça, ce qui facilite pas la chose. Ce qui inquiète beaucoup mon chien d'ailleurs. Le chien. Bon. Donc, je vais essayer de vous montrer, donc aujourd'hui, gardez dans l'esprit que vous avez ces trois systèmes. Et ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que des signes d'instabilité monstrueux sont en train d'apparaître dans le système monétaire. Et qui vont avoir des effets de rétroaction sur les deux autres, tu vois. Donc, ce que je vais essayer de dire, c'est que le système monétaire qu'on avait... Je vais le redécrire à nouveau depuis, mettons, les 80-82, est en train de sauter. Donc on était dans un système stable, monétaire, et on passe dans un système instable. Donc ça, c'est dans nos pays. Et de l'autre côté, t'as la Chine qui est en train d'essayer de recréer à toute allure un système monétaire stable à elle. Donc... Donc, on a maintenant un système monétaire instable qui est en train de se déliter et un nouveau système monétaire qui est en train d'apparaître. Et ça a des effets monstrueux sur les deux autres aussi. Donc, en fait, une chatte, il ne retrouverait pas ses petits, quoi. C'est bien pour ça qu'on dit qu'on a du mal. Mais déjà, prendre conscience que notre système monétaire est en train de se déliter et qu'il y a quelque chose d'autre qui est peut-être en train de naître est déjà... une réflexion qui me paraît extraordinairement importante à faire. Parce que ça va diriger vos placements pour, et la façon de vivre pour les années qui viennent. Quoi. Je veux dire, c'est pas des affaires qui durent un an ou deux, ça c'est des affaires qui durent 15, 20 ou 30 ans. Quoi. Donc ça va être l'épingle. Alors, je vais vous montrer d'abord une loi qui connaît pas d'exception quand on est dans un système monétaire stable. Alors, quand on est dans un système monétaire stable... comme par exemple la Suède et les États-Unis, depuis 1970. Et la Suède fait toujours partie du système monétaire américain, même si celui-là est en train de se déliter, tu vois. Donc là, tu vois, la ligne bleue, c'est la rentabilité en dollars d'un portefeuille à 10 ans constant américain, d'une obligation à 10 ans. Et le rouge, c'est la rentabilité du système suisse, à 10 ans aussi. Suédois. Et en dessous, vous avez le ratio. Et alors, vous voyez quelque chose apparaître, c'est quand vous avez un système stable, arbitré entre les obligations suisses et les obligations... suédoises et les obligations américaines, c'est ce qu'on appelle un retour à la moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, en 1985, les obligations américaines sont hors de prix par rapport aux obligations suédoises, donc tu vends tes obligations américaines, t'achètes tes obligations suédoises, et puis quelques temps après, tu fais le contraire. Tu vois, il y a des moments où il faut acheter un, le vendre l'autre, acheter l'autre, et comme ça, tu peux faire une rentabilité très supérieure à ce que tu ferais si t'achetais les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de temps en temps, tu favorises la Suède, de temps en temps, bon. Ça, c'est un système stable. Tu vois, c'est comme ça. Donc, dans un système stable, la gestion des obligations internationales, c'est toujours un retour à la moyenne. Il y en a un qui s'écarte, qui devient très cher, tu le vends et t'achètes celui qui n'est pas cher du tout. Tu vois, c'est donc un truc très simple. Donc la Suède et les États-Unis sont dans le même système et ils y restent pour aujourd'hui. Mais regarde par exemple, là je passe au deuxième qui s'appelle Ratio in the same currency of the Swiss to the German bond market. Là c'est la Suisse contre l'Allemagne. Tu vois, c'est. Et pendant de 1945 à 2020 à peu près, donc tu vois, ça faisait longtemps, c'était le même système. C'est-à-dire que les gnomes de Zurich géraient l'argent comme les gnomes de Francfort, tu vois, c'était pas. Et donc tu faisais le même système de retour à la moyenne et tout. Bon,
mais je crois que c'est des hobbits.
C'était des hobbits. Il y avait les hobbits. Il y avait les hobbits à Francfort et les gnomes à Zurich.
Ouais.
C'est vrai, ils vivaient dans les montagnes. Comment s'appelaient ceux qui vivaient dans les montagnes? C'était les nains, non? Puis il y avait les nains dans les montagnes.
Les nains, c'est ceux qui allaient dans les mines.
C'est
ils étaient plus petits que les hobbits. Et les hobbits, c'est ceux qui avaient les très jolies maisons et qui faisaient 8 repas par jour.
C'est ça. Donc il y avait ça, c'était plutôt des hobbits. Donc les Allemands, c'était plutôt des hobbits et les Suisses, c'était plutôt des, parce qu'ils vivaient dans les montagnes là-bas. Et donc on vous parle de.
Ah, je te mettrai les Allemands en nains et les Suisses en hobbit.
Ah oui. Ah bah oui, c'est possible. Alors, vous voyez donc la rentabilité du marché obligataire suisse contre le marché obligataire allemand, c'était un gros retour à la moyenne. Et puis d'un seul coup, là, quelque part, aux alentours de 2021-2022, paf, si vous faites votre retour à la moyenne. Vous vous faites absolument massacrer.
Ouais.
Donc ça veut dire que les Suisses et les Allemands n'ont plus le même système monétaire.
Non. Bah non, puisque les Allemands sont dans l'euro, donc ils sont aussi bien gérés que nous ne le sommes, nous, la France.
Voilà.
Et c'est grâce à des esprits puissants, comme M. Trichet, M. Comment il s'appelait celui qui picolait comme un âne du Luxembourg? Non, du Luxembourg.
Ah oui, c'était il a été là. Oui, c'est celui qui disait.
Il y a 5-6 ans,
oui, il faut mentir si on veut, si on veut gouverner. Bref. Alors pourquoi ils ne sont plus dans le même système monétaire? Ben alors là, je vous amène au troisième graphique qui s'appelle The Demise of the Bundesbank, ce qui veut dire. Tout ça, c'est des graphiques en anglais que j'ai sorti de mes archives parce que. Et j'ai pas eu le temps de les mettre en français, donc on va les. Mais on s'en fout, les gens comprendront.
J'ai pas eu le temps s'appelle.
non, mais ça. Poil dans la main, oui. Un poil à palmier. Bon, alors, vous voyez, c'est que pendant de 1970 à 2012, quand M. Draghi est intervenu pour sauver l'euro, n'est-ce pas? Les taux réels en Allemagne, la ligne rouge en haut, tu vois, que tu vois là bien, étaient toujours aux alentours de 3% réels, plus ou moins 1% dans chaque sens. C'est-à-dire que les Suisses et les Allemands avaient comme volonté que le petit épargnant, ne prenant aucun risque, touche du 3% réel, ce qui paraît.
De bonne aloi.
De belle aloi, etc.
Surtout si tu veux un approfondissement du capital, c'est-à-dire si tu veux avoir.
Et que l'épargne soit abondante, de façon à ce qu'elle puisse être investie, etc. Donc ça, c'était. Ils étaient dans le même système. Et les deux bond market, les deux marchés obligataires, se suivaient. Enfin. Était dans une horizontale.
Corrélation.
Donc si on est sorti comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la Bundesbank, la façon dont sur les Bund. Donc le système monétaire allemand a dû changer de direction, en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu la crise de l'euro en 2012... et qu'il était hors de question que tous les pays qui étaient dans l'euro et mal gérés, comme la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, puissent payer du 3% réel.
Ouais.
Donc on s'est rendu compte que c'était ou l'euro qui disparaissait, ou le contrôle de la Bundesbank sur les taux longs en Europe. Tu vois, c'est qu'à ce moment-là, on a dit, bon, mais non, donc on a foutu les taux allemands à zéro,
ouais.
Voire négatif.
Bah, comme nous.
Ben, il fallait faire comme. Il est évident que si tu pouvais toucher du 2% réel en Deutsche Mark, tu n'allais pas pouvoir vendre des obligations françaises à moins 1, qui était la solution pour que l'euro ne saute pas. Donc ça veut dire que l'Allemagne a perdu le contrôle des taux longs de 2012, tu vois, à 2020. C'est le moment où ça décroche. Ce qui me ramène à une autre, alors là, il faut que je retourne un peu en arrière, c'est que c'est pas la première fois que je vois des systèmes monétaires qui se séparent. C'est que dans les années, au début des années 70, ce qui s'est passé, c'est que le dollar est sorti de son prix fixe avec l'or.
Oui, sais, bien sûr.
Boum, c'était la fin de... Donc, à ce moment-là, le dollar est parti en baisse comme une fusée, l'or s'est mis à monter également, ça a été épouvantable. Et de 1970 à 1980-81, ce qui a sauvé le système, aussi curieux que ça paraisse, c'est le fait que pendant toute cette période, l'Allemagne, je reviens au graphique précédent, te donnait... Tu vois,
du
3 ou du 4, tranquille. C'est-à-dire, quand les Américains disaient « Non, non, moi, maintenant, je veux payer 0, moins 1, moins 2 », les Allemands disaient « Je m'en fous, moi, je continuerai à payer 3, 4%. » C'était tout le débat entre les États-Unis et l'Allemagne à l'époque, où il y avait le gouverneur de la Banque centrale allemande qui, d'après une histoire que je sais être vraie, puisque c'était mes associés qui étaient dans un avion avec le gouverneur de la Banque centrale allemande à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires financières américaines, de l'économie, l'ambassadeur d'Allemagne, des États-Unis en Allemagne dans un avion, ils étaient dans un avion privé avec eux, ils se promenaient, je ne sais plus pourquoi. Et à ce moment-là, le ministre des Finances américain a dit, de toute façon, vous, Allemands, vous baisserez les taux, parce que nous, on a des élections, il faut qu'on ait des taux bas au moment des élections, etc. Et le gouverneur de la Banque centrale allemande, ce bon Karl Otto Pöll, que j'aimais beaucoup, qui était un caractère de cochon, il a pris une colère monstrueuse et il a dit qu'il n'en était pas...
Évidemment, pas du tout.
Pas du tout. Ils étaient constitutionnellement indépendants, qu'ils n'en avaient rien à foutre. Et donc, l'Allemagne, à ce moment-là, dans les années de crise, est devenue l'encre de tous les marchés obligataires. Tu vois, c'était elle. On savait que la Fed ne faisait pas le boulot. Et l'Allemagne est devenue ce qui tenait les marchés obligataires. C'était le... Et donc, à ce moment-là, quand les Allemands ont dit ça, les Américains ont été obligés de faire marche arrière et de faire monter leurs taux pour que leur monnaie redevienne un peu crédible et tout. C'était Volcker qui est arrivé. C'est devenu crédible. Et donc, on a eu un équilibre qui s'est produit dans les années de 1980, mettons, à 2020, à peu près, 2012, allez, où les deux grandes banques centrales du monde se partageaient le boulot, l'Allemagne contrôlait les taux longs, et les États-Unis émettaient du dollar qui servait à acheter le pétrole. Tu vois, donc le dollar restait monnaie de réserve, mais dans le fond, la crédibilité du système était ancrée sur la Bundesbank, à qui on la faisait pas, quoi. Il y avait pas. Et ce qu'on a fait avec la France et les États-Unis, c'est qu'ils ont créé l'euro littéralement pour foutre en l'air ce contrôle de la Bundesbank.
Oui, c'est ta grande théorie qu'ils voulaient se payer la Bundesbank.
Mais parce que qu'ils les empêchaient de faire n'importe quoi.
Bien sûr.
Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et donc, c'est à ce moment, quand les Suisses se sont rendus compte de ça, ben c'est pour ça que les obligations suisses montent comme du fusée. Parce que tous les Suisses qui avaient des Allemands, qui avaient des Bundes, ils ont dû les vendre à toute allure pour retourner dans leur bon franc suisse. Donc, le premier bloc qui a sauté, c'est 2012. Il y a plus de, en quelque sorte, on n'a plus d'encre pour les marchés obligataires qui soient crédibles. On en avait pris bonne note à l'époque. Et alors, regardez maintenant le deuxième. La deuxième chose qui a sauté. Je montre mes graphiques. Cette fois-ci, c'est la Chine, les obligations chinoises, le graphique jaune, contre les obligations américaines. Donc, dans le monde dans lequel je décris, les obligations américaines, c'était ce qui servait à acheter le pétrole.
Oui.
Ils n'étaient pas crédibles comme réserve de valeur, mais comme instrument d'échange, en quelque sorte, tu faisais des réserves en dollars et tu pouvais t'acheter du pétrole avec, puisque tu étais obligé d'acheter ton pétrole en dollars.
Voilà, et c'était jusqu'à récemment, jusqu'à la crise vénézuélienne, le grand deal de ces dernières années dans le monde, c'était vous n'avez plus besoin de faire des réserves stratégiques, alimentaire, en pétrole ou en ce que vous voulez, du moment que vous avez des obligations d'État américaines. Une obligation d'État américaine égale accès direct au pétrole. Et puis arrivent là les moments de la crise vénézuélienne et de la guerre en Iran, et on se rend compte qu'en fait ce deal est plus ou moins forclos et qu'on va devoir redéfinir.
Donc le deuxième ancrage du système qu'on avait, le premier c'était la Bundesbank, le deuxième c'était le dollar pour acheter du pétrole, saute. Et vous voyez, ça, regardez, avant, de, si j'ose dire, de 2004 quand commence le vrai marché obligataire, chinois, à 2020, vous voyez, le milieu de 2020, là aussi c'est un retour à la moyenne, vous voyez, c'est... Et puis d'un seul coup, paf! Exactement comme la Suisse contre le Bund.
Et c'est en 2020-2021.
2020-2021, et surtout à partir de 2022, et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que les Russes envahissent l'Ukraine, et qu'on leur pique leur réserve de change.
Aussi.
Donc d'un seul coup, ce que tu disais tout à l'heure qui était très vrai, si vous avez des dollars, vous avez accès au pétrole.
Que nenni.
Donc si les réserves de pétrole, si les réserves de change maintenant, qui sont automatiquement déposées aux États-Unis, on peut te les piquer, t'as pas de raison d'avoir des...
Se posera la question désormais de pourquoi dois-je conserver autant d'obligations du Trésor américain puisque surtout... de toute façon j'ai aucune liquidité. Donc à ce moment-là les gens se disent finalement si ça vous fait rien je vais peut-être avoir des actions, je vais peut-être avoir de l'or, d'où aussi la flambée spectaculaire de l'or en corrélation. Parce que désormais...
Ça, toi, alors, tu le gardes dans tes... D'ailleurs, la France fait revenir une partie de son or des États-Unis pour l'avoir dans ses caves à elle. Donc ça veut dire que les deux ancres du système des paiements internationaux, donc le Bund, comme en quelque sorte garantie que le détenteur d'obligations ne se fera pas voler par les États comme au coin du bois, et deuxièmement... L'adéquation entre le dollar et le pétrole en 2020 saute, et du coup, à ce moment-là, tout le monde commence à dire « je vais acheter mon pétrole en autre chose que le dollar ». Donc, tu vois, les obligations, d'un seul coup, n'ont plus de raison d'être américaines. Et ça veut dire qu'on vient d'un système qui est complètement instable, puisque tu as beaucoup de réserves en dollars que l'on ne sait plus à quoi elles vont servir. Et puis de l'autre côté, tu n'as plus de l'encre de la valeur qui était la Bundesbank. Donc tu passes d'un système stable à un système instable. Et c'est ça la première des choses dont je voudrais convaincre les gens, c'est que, en quelque sorte, le système monétaire, qui est très important pour le système financier et pour le système économique, est passé de stable à instable. Et donc... Ça veut dire, mais par contre, vous voyez apparaître des éléments de stabilité autour de la Chine. C'est-à-dire que j'ai montré à plusieurs reprises dans ces réunions ici, que si vous prenez le marché indien obligataire et le marché chinois obligataire, il n'y avait aucun retour à la moyenne. C'était l'Indien se pétait la gueule par rapport à la Chine tout le temps. Et puis, depuis à peu près 10 ans, est en train d'apparaître une horizontale, c'est-à-dire que les Chinois, d'après tous les travaux que je fais, semblent créer une zone monétaire autour d'eux, dans le cercle de Valéry Pierris, tu sais, celui-là, autour de Hong Kong, là. Et donc, tu vois apparaître le prochain système, alors que l'autre est en train de partir en déliquescence, quoi. En général, ça se passe pas toujours bien, tu vois. C'est pas... Quand on est passé de la livre sterling au dollar, ça n'a pas été terrible, quoi. Donc, ça veut dire aussi que les systèmes, le système français par exemple, qui est branché sur l'ancien système, la rentabilité du capital investi n'est pas bonne. Regarde le graphique suivant. Tu sais que je dis toujours que si l'or monte comme dans un pays, c'est que le pays est mal géré, quoi. Non, normalement, si les monnaies sont de bonne qualité... C'est celui-là, ça s'appelle rendement d'une obligation française et de l'or. Celui-là, il est en français.
C'est un 5.
Et tu vois, donc, ça, c'est donc le marché des actions dividendes réinvestis, la ligne noire.
En bas ?
En bas, elle est bleue. Elle est bleue, et en haut, c'est l'or que j'ai mis en jaune, comme ça, à tout hasard. Et tu vois que de 1970, quand le précédent système saute, jusqu'à 1981-82, quand le nouveau système se met en place, l'or fait beaucoup, beaucoup mieux que le marché des actions, quoi. Et puis, on arrive au nouveau système, qui est bien, qui est stable, et là, on monte comme une fusée. Il ne faut plus avoir d'or, il faut avoir que des actions. Et puis, depuis, allez, 2012, on recasse, tu vois. Et puis, alors, depuis 2020, c'est la débandade, quoi. Ça veut dire que quand le système financier ne marche plus, enfin, n'est plus rationnel, ce qu'on a beaucoup expliqué, la seule façon de t'en sortir, c'est d'attendre que ça se calme en te mettant en or, quoi.
Oui, oui, mais il faut...
Ou en action, mais en action, encore faut-il avoir des actions qui ne sont pas dans le pays, etc. Oui. On en a beaucoup parlé, mais ce que je veux dire par là, c'est... Donc tu sais fondamentalement que de 1970 à 1982, le système des paiements était en train de péter. Tu sais que depuis de 2012 à peu près à aujourd'hui, tu sais que cet ancien système qui a bien fonctionné pendant 25 ou 30 ans est en train de péter. Donc il faut que tu saches ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est vraiment le truc qui est absolument essentiel. Notre système monétaire est instable.
Oui.
Et à côté est apparaître un deuxième système monétaire qui est stable. Alors comment je le sais ? Et ce sera mon dernier graphique.
Ça me fait toujours penser au cours de chimie quand on faisait des précipitations. Là, vous voyez, c'est un précipité instable.
Oui, d'abord, il était instable. Puis moi, on me disait, et ça va devenir bleu, et
ouais,
hop, ça devenait rouge.
Ça marchait jamais, ou alors c'était...
Jamais. C'est quand vous... Donc, alors là, je reviens au marché obligataire comme mesure, c'est le dernier graphique. Alors, quand tout va bien, regardez, de 2004 à 2012, les obligations, elles font la même chose toutes. Vous voyez, c'est la performance d'un portefeuille dans le 10 ans local, traduit en dollars, tu vois. C'est-à-dire, tu vois que de 2004 à 2012, que tu investisses dans n'importe lequel des 5, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. C'est pas... Et puis arrive donc 2012, le premier qui décroche, c'est le Japon. Tu vois, d'un seul coup, le marché obligataire japonais se pète la gueule.
Donc en 2013.
C'est en 2013.
Pourquoi en 2013 il fait ça, lui ?
C'est une grande question, je me l'ai supposé.
Parce qu'il est bien parti quand même.
Il était, et d'un seul coup, paf.
Vraiment,
il est parti.
Paf.
Alors, oui, paf
2013,
le chien. 2013, c'est le moment où Draghi a dit ses bêtises.
Oui, c'est vrai.
Et alors, je me suis dit, tout le monde considère que les Japonais, c'est des gros crétins. Moi, je te signale qu'en 1990, quand le marché était au plus haut, tout le monde disait que c'était les génies les plus profonds, qu'ils avaient structurellement, ils allaient conquérir le monde, etc. Donc, les Japonais, ils sont quand même très près de la Chine. Et ils ont peut-être vu émerger avant les autres cet immense bond qualitatif que faisait l'industrie chinoise et...
Mais du coup, pourquoi ils auraient fait ça sur leurs obligations ?
D'un seul coup, ils écroulent leur monnaie pour rester compétitifs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les Japonais se disent « Ouh là 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 là, si je veux continuer à vendre des voitures et je sais pas quoi. »
De toute façon, c'est l'Asiatique, par essence.
En cas de doute, il dévalue.
Tu n'as pas besoin de les pousser beaucoup.
Comme il n'y avait pas d'inflation, tout ça, ils sont pétés la gueule. Bon. Et puis, ensuite, deuxième chute, après la...
Mais j'avais... Pardon, je t'arrête un moment. J'avais jamais véritablement conceptualisé combien, quand tu écrases ta monnaie, ça va avoir une incidence directe sur ton
toutes les sociétés.
Obligation.
Depuis, bien sûr.
Sur ton obligation à 10 ans.
Bien sûr, elle est en dollars, n'oublie pas. Tu l'as traduit en dollars, donc la baisse du yen.
Donc en fait, la baisse du yen fait aussi
que les profits des sociétés japonaises.
Oui, toi, tu arrives en dollars et forcément, si tu achètes un 10 ans japonais.
Tu prends une gamelle.
Ouais.
Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, si tu veux, c'est très curieux, c'est que j'avais écrit un papier vers 2012-2013 pour Gafcal, dans le journal que j'avais dit, il se passe un phénomène curieux. C'est que le marché des actions japonais monte comme une fusée, mais en dollars, il ne monte pas du tout. C'est-à-dire, j'avais appelé ça la hausse que personne ne voit.
On dirait un faux travail. Quelquefois, quand tu accouches, tu as les contractions, mais tu n'as pas de dilatation.
Voilà.
C'est un faux travail.
Voilà. Alors, les gens n'achetaient pas le marché japonais parce que rendu dans leur monnaie, ils ne gagnaient pas d'argent.
Bah oui.
Mais par contre, en yen, les types se mettaient. Les profits japonais sont montés comme des fusées.
Alors que c'est bien pour le garder en interne.
Ah ben exactement, c'est-à-dire que les Japonais s'en sont mis plein les fouilles. Leur marché a fait aussi bien que le marché de New York, si ce n'est mieux, en monnaie locale.
En monnaie locale, donc c'est pour ton...
Ils étaient très contents. Et donc, rebelote, rechute du marché japonais, à ma grande surprise, de 2020 à 2024.
Ouais.
Et là encore...
C'est vraiment bas. Hein.
C'est vraiment... Oh ben tu penses, même en dollars, tu as perdu 29% de ton rendement depuis 2004. C'est-à-dire que...
Cette purge,
t'as pris une gamelle. Nous, on s'est intéressé vaguement, on s'y intéresse, au marché japonais depuis l'été 2024.
Oui, parce qu'il arrive un moment où tu te dis, c'est tellement bas, les gars,
il y a un moment... Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être les Japonais... ont très bien compris, conceptualisé cette espèce d'émergence de la puissance chinoise, et ils se sont dit la seule façon de se protéger, c'est de ramener nos coûts très bas en ayant une monnaie très basse.
Ça les a protégés ?
Bien sûr, tu regardes les profits des sociétés japonaises, ils explosent, alors que les profits des sociétés européennes, on se fait détruire par la Chine. Si tu regardes, toute l'industrie automobile est en train de sauter.
Oui, surprenamment.
Oui,
je voyais un article dans
Chine,
les Échos ce matin disait oh là là, c'est horrible, plus aucune voiture. Je dis hasard de dingue.
Absolument, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux, que aujourd'hui les industriels européens, ils doivent se payer la ligne noire tout en bas plus la Chine. Mm. Tu te rends compte? Ils n'ont pas une chance.
Ben.
Les Japonais qui étaient à peu près donc. Donc ça, c'est le premier qui décroche, c'est la Chine, c'est le Japon.
C'est le Japon.
Le deuxième qui décroche, c'est le jaune.
Les German Bonds.
Les German Bonds qui.
Donc l'Allemagne.
Donc l'Allemagne, et donc ça veut dire que nos systèmes industriels commencent à déguster.
Mais parce que là, l'Allemagne, c'est pas elle qui décide de décrocher, à l'inverse du Japon, qui peut-être fait quelque chose pour sa monnaie. Alors que les German Bonds, ils sont partis en dig-dig parce que, à cause de la rentabilité.
Et aussi, à partir du moment où ils piquent les réserves de change, parce qu'il y avait une partie importante des réserves de change qui étaient en bonds. Alors, donc, tu vois, les gens se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Au moins, si je garde des dollars, je peux acheter des trucs dans un pays normal, les États-Unis, le droit de propriété, ou j'en sais rien. Donc, les T-bonds, mais tu vois quand même que sur les T-bonds, la ligne bleue, tu gagnes plus d'argent, t'es à plat, littéralement, depuis 2013. C'est-à-dire, ça fait 12 ans que tu gagnes plus un rond sur les T-bonds.
Attends. 2013, oui, c'est-à-dire que tu as une jolie hausse.
Tu as une jolie hausse dans
là. Puis, et ensuite, puis, c'est vrai que si tu la ramènes de là à là,
il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Alors, les deux
t'es revenu à 184, quoi.
Voilà, les deux seuls marchés qui montent.
Et qui sont encore en hausse.
Qui sont encore en hausse structurelle, qui gardent leur hausse structurelle, c'est...
La Suisse et la Chine.
Et voilà. Donc, tu vois, c'est pour moi, ce graphique, ça prouve
l'existence. Il y a 100 points entre la Chine et les UST bonds, quand même.
Voilà, c'est pour ça que nous, on avait recommandé les obligations chinoises.
Même si elles avaient fini de donner, on est quand même à 100 points de...
Oui, à la place de perdre de l'argent, comme tu as fait sur les bonds, les bonds, tu es passé de 282 à 153. Donc, si tu veux, ceux qui ont gardé des obligations françaises, ils ont perdu... Allez, à 225, ils ont perdu, ça doit faire à peu près 35%. Et ceux qui ont acheté des obligations, ils ont gagné 40%.
Mais tu vois, c'est là où c'est horrible, c'est que les gens, quand ils ont un petit pécule dans leur PEL.
Mais évidemment.
On ne leur compare pas leur obligation d'État qui a 153 au 236 de la Suisse.
Mais non.
Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu 80.
Mais d'abord, ils ne se rendent pas compte et surtout... mais en plus, c'est ça, c'est sans prendre en compte l'inflation. Hein.
En plus, au réel.
Au réel. Alors, ouais. Tu veux dire, donc ça veut dire que la Suisse, qui a toujours été un système à part, où quasiment ils pourraient... D'abord, ils n'ont pas de déficit budgétaire, donc le marché obligataire suisse, je dis toujours en rigolant, c'est un peu, un terme anglais, c'est « collector's item ». Tu sais, c'est, on achète, mais c'est difficile d'en acheter parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde. Quoi, tu vois, donc. La Chine, tu vois, cette espèce de ligne rouge qui monte, elle n'a pas de rupture de pente. Elle reste à peu près à 3% par an réel.
Mais ce n'est pas très facile d'acheter des obligations d'État chinoises.
C'est plus facile que des obligations d'État indiennes, mais c'est, en effet, ce n'est pas très facile. Mais... tu peux le faire quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est en dehors de la possibilité d'acheter ou pas acheter, ça veut dire que les banques centrales, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles n'ont pas de probabilité. Donc, ça veut dire que depuis, je sais pas, 5 ans, toutes les banques centrales doivent acheter de l'or, acheter des obligations chinoises, et acheter des obligations suisses, et vendre...
Mais elles n'en achètent pas des obligations chinoises, les banques centrales. Enfin, peut-être que toute la partie Valérie Pierris, oui.
Ils n'achètent que ça. Mais ils n'ont même pas besoin de les acheter parce qu'on leur donne des swaps.
C'est-à-dire oui, que mais les... je suis bien persuadé que la BCE n'en a pas.
Non, non, mais la BCE, c'est des... de toute façon, la BCE n'a aucune responsabilité dans le taux de change. On a combattu un système où personne en Europe n'est responsable du taux de change de l'euro. Alors, si les Japonais décident de dévaluer, nous, on se fait renfler, mais on ne peut rien faire.
Je ne sais pas, aujourd'hui, la BCE, à part de fixer les taux...
C'est tout ce qu'elle fait, les taux courts.
Oui, les taux courts.
Peut-être d'acheter des obligations des différents États européens alors qu'elle n'en avait pas le droit.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc de leverage, de tenir les
leviers... D'empêcher la faillite. Mais plus elle achète des obligations, plus les gens se disent « Ouh là là, ça pue ». Donc plus la ligne jaune, les bonds vont baisser. Et j'aurais pu le montrer, j'ai le graphique là, mais ailleurs. Mais à ce moment-là, comme tout le système de pension allemand était sur les bonds, d'un seul coup, à la place, ils ne gagnent plus un rond. Donc maintenant, il faut 10 ans pour qu'un système de pension qui avait des réserves et dépenser toutes ses réserves, parce que maintenant les taux sont à zéro. Mais ça y est, ils ont dépensé toutes leurs réserves. Donc l'Allemagne a devant elle un problème gigantesque. C'est de quoi vont vivre les petits vieux à la retraite? Et ils vieillissent vite. Hein.
Oui, alors d'autant que les Allemands ont aussi un immense problème, c'est qu'à l'inverse des Français, souvent ils ne sont pas propriétaires.
Non.
Il y a un compte sur Twitter qui nous fait tous rire en ce moment, qui s'appelle Bernard et Chantal. Alors Bernard et Chantal, c'est le compte typique des boomers qui trouvent quand même ça vraiment difficile parce que tu comprends, leur maison à Arcachon, il faut changer l'eau de la piscine. Et puis alors ils ont un petit studio qu'ils ont mis sur Airbnb, mais ils vont pas le prêter à leur fils parce que quand même, il faut,
Il faut qu'ils travaillent tout seuls pour gagner.
Il faut qu'ils travaillent tout seuls, voilà. Oui. Et je te rappelle que le studio sur Airbnb, il est quand même à 350 la nuit. Voilà, bon. Et c'est quand même pour faire prendre conscience à toute cette génération qui n'est pas la tienne. Je rappelle que toi, tu es de ce qu'on appelle un silent, tu n'es pas un boomer, et, puisque tu es né en 43, mais qu'ils ont quand même bouffé la chandelle par les deux bouts, quoi.
Non, ils ont bénéficié de transferts de richesses qu'ils ont organisé à leur profit, c'est-à-dire que...
Ou qui ont été organisés
à leur profit. C'est-à-dire que, bah, par exemple, l'immobilier est beaucoup monté, mais il n'y a pas plus d'immobilier qu'il y a 20 ans. Donc, ça a été un transfert de richesse, ça n'a pas été une création de richesse.
Donc, il y a des appartements qu'ils ont pu acheter dans les années 70 avec un apport minimum en étant tous les deux salariés, avec des boulots CSP+, qui aujourd'hui vont être valorisés à 2 millions, 2 millions et demi, qui vont vendre à ce prix-là.
Ce qui leur permettra d'avoir une retraite agréable, mais leurs enfants ne peuvent pas se le payer.
Non.
Donc c'est acheté souvent par des étrangers. Donc tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est donc, tu reprends ces trois systèmes, le système économique, le système financier et le système monétaire. Donc, notre système monétaire, il est complètement inefficient. Aujourd'hui. Tu vois, on n'est plus en un système stable. Donc, ça veut dire que tout ce qui est contrat dans le système financier, tu ne peux pas l'acheter. Puisque la monnaie est pourrie. Donc, tu ne peux pas acheter ça. Ça veut dire que tu ne peux avoir que des trucs dans la sphère économique.
Oui.
Donc, que des actions ou de l'or.
Et on voit...
C'est un peu ce qu'on a fait. Ou alors, les contrats, on les a ailleurs.
Voilà. Alors, j'aimerais revenir... tu en parlais dans ton papier cette semaine de la dette de la France, parce que ça fait quand même partie, à partir du moment où on parle des obligations d'État. On arrive quand même à atteindre la somme faramineuse de 3 500 milliards de dette, qui est donc sur les marchés, ce qui représente à peu près 116% du PIB. Bon, alors, l'Italie sera apparemment à 132, mais encore une fois, on ne va pas revenir...
ça vient du passé.
Ça vient du passé, et par ailleurs, c'est une dette qui est très souvent détenue par des Italiens, ce qui n'est pas le cas de la France.
Également, il y a aussi autre chose, si tu veux, c'est que la dette italienne, les Italiens ont ce qu'on appelle un excédent primaire du budget, c'est-à-dire qu'ils sont en excédent hors paiement de la dette.
Voilà.
C'est-à-dire que l'excédent du budget sert à retirer la dette passée. Donc ils sont dans une position où ils retirent. Alors il y a des moments où ils ne retirent plus, mais la France, elle est en déficit primaire. C'est-à-dire que on a un déficit budgétaire qui est de 3 ou 4%, auquel il faut rajouter 2% de dette. C'est-à-dire que nous, on est en cavalerie. On emprunte pour payer les... Donc, c'est pas du tout la même chose. L'Italie a des excédents primaires et des excédents de ses comptes courants. Nous avons des déficits primaires et des déficits des comptes courants. Donc, dans une situation beaucoup plus grave que l'Italie.
Et donc, pour revenir à cette situation de cavalerie, qui est réelle, on se retrouve aujourd'hui avec un service annuel de la dette qui requiert à peu près 60 milliards par an, ce qui veut dire qu'on a des paiements d'intérêts qui sont égaux à 1,70% de la dette.
C'est-à-dire que aujourd'hui, les taux d'intérêt sur la dette existante, aujourd'hui, sont à 1,70, alors que les taux d'intérêt dans le marché sont à 3,5%. Pourquoi ? Parce que on a eu, il y a 7-8 ans, des taux d'intérêt à zéro. Donc,
grâce, encore une fois, au suspect habituel.
Au suspect habituel. Donc, on a pu faire de la dette pendant 5, 6, 7 ans. On a mis 1 000 milliards de dette avec M. Macron. Tout le monde dit c'est un scandale. Mais ce qui est un scandale, c'est que ces 1 000 milliards de dette, on a payé zéro pour les accumuler au début. C'est maintenant que la note va arriver.
Voilà. Et maintenant, la note va arriver. Lui, il le savait très bien. Parce que aujourd'hui, avec le roulement, on va se retrouver avec des tranches qu'il va falloir réévaluer à 3,4.
On va rembourser une dette à zéro et on va en prendre une nouvelle à 3,4. Donc, ça veut
l'intérêt sur cette dette et donc le service de la dette va augmenter de façon absolument phénoménale.
La dette, si les taux d'intérêt, si la dette française payait 3,5% sur l'ensemble de la dette, aujourd'hui le service de la dette serait 120 milliards. Et comme on continue à avoir des déficits monstrueux, si tu prends les 4 ou 5 ans qui viennent, si on rajoute encore 1 000 milliards de dettes, ce qui semble à peu près prévisible dans les...
Compte tenu en plus de la récession inflationniste dans laquelle on va rentrer.
Voilà. Et donc, ça va vous faire, il va falloir 1 000 milliards de plus. Donc notre dette va être de 4 500 milliards, sur lequel on paiera 3,5. C'est-à-dire que vous serez plutôt à 180 milliards. C'est-à-dire que dans les 4 ans qui viennent, je sais que le service de la dette va passer de 60... à 180. Mais où est-ce qu'on va les trouver, ces 120 milliards ?
Alors, non seulement ça, mais c'est... J'aime souvent prendre cet exemple, même s'il est assez décorrélé du temps présent, qui est celui de la Guyane au moment de la guerre de 100 ans. Tous les officiers, enfin, toutes les troupes anglaises étaient envoyées en France, et donc en Guyane française, recevaient leurs soldes en France et la dépensaient.
Ça appartenait à l'Angleterre à l'époque, la
Guyane.
Ils
étaient en France. Donc, quand ils allaient au bordel français.
Voilà.
Ils achetaient du saucisson français. Et ainsi de suite. Donc, toute l'économie voyait arriver l'or anglais dépensé sur place. Et l'Angleterre s'est retrouvée avec une crise, un écrasement. Bon, à toute chose égale, on va se retrouver, nous, à envoyer tout ce qu'on va créer,
c'est-à-dire
toute création de notre PIB.
180 milliards. Le PIB va augmenter, si tout va bien.
De 1,5, allez.
Mettons peut-être de 40 milliards. Donc ces 40 milliards, nous, il y en a 90 qui vont partir. Donc il y en a 90 qui vont partir, ils vont d'abord prendre des 40 milliards de plus, et puis il va falloir prendre 50 milliards d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le niveau de vie des Français va baisser de 50 milliards, 5 années, puis l'année prochaine, puis l'année d'après, puis l'année d'après. ça veut dire qu'on rentre dans un cercle. Caresser un cercle, il devient vicieux, comme disait Chebluki. Ben, mais...
Alors, voilà. Premièrement, et deuxièmement, par ailleurs, on va voir là...
Mais c'est pour ça qu'on ne comprend pas.
Dans les semaines qui arrivent, la récession inflationniste dont on parle, parce que les derniers bateaux, là, qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivés, c'est-à-dire que maintenant, la hausse sur l'alimentaire, c'est maintenant. La hausse sur les vêtements aussi, parce que...
Et la hausse pour acheter le pétrole qu'on va acheter, je ne sais pas combien dépenser pour le pétrole, mais il va nous coûter 40% de plus. Donc, en plus du service de la dette, il va y avoir le pétrole qu'il faut acheter plus cher. Donc, notre niveau de vie va se contracter. Et encore une fois, ça va taper les gilets jaunes. Et pas comment elle s'appelle, Bernard et Chantal, là. Bernard et Chantal,
ils s'en foutent, ils sont à Bali, là, alors où on parle.
Oui, ils sont en train de se reposer.
Ils sont crapahutés comme ils font tous les Gaulois. Chaque fois que tu vas dans un coin du monde.
Il y a des Gaulois avec des chapeaux de paille qui sont en train de.
Qui vivent leur meilleure vie avec leur Bob Ricard.
Voilà. Et donc, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est si vous faites des calculs à 4-5 ans, allez, donc. Qui sont simplement des calculs d'intérêts composés de ce que vous allez payer avec certitude. Tu vois, c'est pas des prévisions, c'est quasiment des certitudes. Tu regardes ça et tu dis, mais ça peut pas marcher. Mais si à l'Institut des Libertés, à deux ou trois qu'on est, on est capable de faire ces calculs, ben, ils le savent, là, au ministère des Finances.
Alors, au ministère des Finances, ils le savent, mais on l'a tous vu, le niveau des députés est absolument dramatique. Ils comprennent rien. Là, aucun des députés qu'on voit n'est capable de comprendre ce dont on parle ici. Tous, vous qui nous regardez, sachez que vous avez un niveau bien plus haut que tous ces gens qui nous regardent.
Vous devriez tous vous présenter à la prochaine élection.
Oui, parce que là, on dit juste des choses vraies et qui vont se réaliser.
On va tout droit vers un truc. Mais je ne parle pas à 20 ans, hein, là, c'est à 3-4 ans. Et encore, si iOS...
Alors, je sais, les gens vont regarder en disant « Ah, mais le vieux Charles Gave, il dit toujours la même chose », et ainsi de suite. Mais vous ne vous rendez pas compte combien vos styles de vie, vos qualités de vie se sont écrasées. Moi, je le vois, puisque moi, je viens d'une génération, encore une fois, j'étais jeune en 90, enfin, mes premiers boulots. Combien, en qualité de vie égale, on avait une vie bien meilleure.
Et
ma coiffeuse était capable de prendre des vacances. Elle fait toujours le même boulot, elle fait des mèches. Hein. Donc, elle était capable de prendre des vacances deux fois par an. Aujourd'hui, elle me dit, je prends des vacances une fois tous les deux ans. Elle n'a pas changé sa façon de faire des mèches. Elle est toujours dans le 8e. Et elle travaille toujours de la même façon. Et elle vit moins bien. Elle est plus loin dans Paris, et ainsi de suite. Les métiers CSP+ n'ont pas été trop touchés parce que malgré tout, encore que si un peu, mais bon, et c'est le milieu et les profs et tout ce qui, voilà.
On a une espèce de prolétarisation de la... En quelque sorte, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé en Chine. En Chine, ils ont eu une hausse de leur niveau de vie phénoménale depuis 15-20 ans. Et d'ailleurs, je vais inviter Didier... qui rentre de Chine.
Ça sera pour l'UDE.
Oui. Et il va nous expliquer ce qui se passe en Chine. Mais...
Donc ceux d'entre vous qui sont à l'Université de l'Épagne, vous aurez le témoignage de Didier.
De Didier qui est allé au salon de l'auto, etc. Mais donc, pendant que la Chine suivait une politique, dans le fond, d'augmenter son épargne en payant les épargnants bien, etc. Nous, on faisait le contraire. Et 10, 15, 20 ans, on voit l'écart qui s'est creusé. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique qu'on suit, contrairement à la politique de la Chine, qui est pérenne, si tu gères bien, ben, y a pas de raison de changer, quoi, tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Nous, elle s'arrête. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, c'est que ça devient tellement visible. Je me dis, mais ils sont tous fous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, j'ai la même sensation que les gars, j'imagine, comme De Gaulle ou j'en sais rien, en 1939, quand il y avait la guerre et tout, que les gens qui étaient à Paris qui disaient « il n'y a aucun souci, on a la ligne Maginot ». La ligne Maginot, c'est la BCE. Mais si l'Allemagne saute, la BCE, elle ne veut pas aller loin. Hein. Donc cette espèce de croyance que... Il y a des bidouilles à faire dans le système monétaire qui permettront de sauver le système financier, le système économique. Les bidouilles, vous les avez faites depuis 25 ans. C'est fini les bidouilles dans le système monétaire. Vous ne pourrez plus les faire, elles sont finies.
Mais c'est marrant parce que quelquefois, quand je vois des experts de Bercy et ainsi de suite intervenir, ils ont l'air de dire « mais non, mais pas du tout, on a encore beaucoup de réserves dont vous n'êtes pas au courant, vous...
Oui, bah, qu'ils nous
voilà, mais et vous inquiétez pas, on sait très bien ce qu'on fait, on en a, c'est bon, vous
ouais,
inquiétez
c'était
pas. »
C'était Copé, ça, oui, j'ai vu ça.
Oui, oui, voilà.
Et moi, je m'étais engueulé avec Copé il y a 20 ans, quand j'ai sorti le... Les lions menés par des ânes, j'avais eu un débat avec lui à l'époque, et il m'avait dit, mais enfin monsieur, laissez-nous faire, nous savons. J'avais dit, vous êtes un théoricien économiste, j'ai dit, comment ça un théoricien économiste, j'ai créé des sociétés, je gère 10 milliards de dollars, et vous êtes un crétin qui n'avait jamais rien fait de votre vie, si ce n'est grenouiller dans les couloirs ministériels. Donc on était un peu fâchés à la fin, quoi. Il ne m'a pas salué, ce dont je me suis remis.
Oui, mais je te fais remarquer qu'on a toujours, dans l'absolu, les mêmes crétins chevelus, plus ou moins chevelus, femmes ou hommes, qui nous expliquent que laissez-nous faire...
Laissez-nous faire, l'argument d'autorité, laissez-moi faire, j'ai fait l'ENA, je sais de quoi je parle, d'après saint Thomas d'Aquin, l'argument d'autorité est le seul dont, dans un débat, on n'a pas le droit de se servir, sauf si tu cites les Écritures. Alors là, tu peux le... Mais enfin, M. Copé ne cite pas les Écritures. J'ai rien contre M. Copé, mais enfin, il est
l'archétype... Après, bon, il y a des choses, on peut dire, écoutez, on sait tous que l'eau, ça mouille.
Voilà.
On sait tous que...
Bon, ouais, mais ça, on n'a pas besoin d'aller. Non, mais de dire, faites-moi confiance parce que je suis...
Parce
là...
que je suis sorti second de l'ENA.
De l'ENA ben non, moi, je préférerais... Le meilleur ministre des Finances français, c'était M.
Bérégovoy.
Il y avait Bérégovoy qui était un ancien de l'EDF, et avant ça, c'était M. Monory qui était un garagiste. C'était quand même les mecs qui savaient...
Qui devaient avoir l'un et l'autre leur certificat d'études.
Oui, mais qui était très difficile.
Qui était très difficile. Ouais. Ah ben, je suis persuadé que je passerai, à ce jour, je ne passerai pas la dictée du certificat d'études.
Qui passe la dictée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ce que je ne comprends pas, c'est que c'est tellement visible, ce qui nous arrive. Il suffit de... Tiens, les gens qui nous écoutent, si vous êtes... Si vous avez accès à l'intelligence artificielle, demandez à l'intelligence artificielle de vous faire un petit descriptif du déficit budgétaire français, de l'argent qu'il va falloir lever année après année, dans les 4 ou 5 années qui viennent, avec taux d'intérêt à 3,5% et déficit budgétaire à 250 milliards. Et, il vous donnera les chiffres, il fera ça très bien pour vous. Et vous sautez par la fenêtre.
Non, par ailleurs, l'autre question aussi, c'est qui va acheter ça ?
Parce que... Le problème, c'est d'abord qui va acheter ça ?
Non, et parce que la BCE, there's so much she can do, il y a un moment,
elle peut pas.
Non, mais bon, elle s'est toujours assise dessus, mais elle va devoir acheter l'Allemagne,
France. Si elle achète la dette française, la dette allemande, etc., on va rejoindre le Japon.
Oui.
Oui, mais nous, on a pas ça, comme les sociétés gagnent pas énormément depuis des années, on n'a pas il y a pas de gras dans les sociétés françaises. On aura le fait qu'on dévalue, on va dévaluer avec relativement peu de capacité de production.
Déjà, on est à l'os en France sur la capacité de production.
Donc je regarde ça et je me dis ben.
On va être obligé d'évaluer, je vois que ça.
C'est la seule solution à terme. Donc il va falloir un jour que... Ce qui va se passer, c'est que la ligne rouge, la Chine, va monter énormément, et la ligne jaune, l'Europe, va baisser énormément. C'est pas possible.
D'ailleurs, les Français, par exemple, ne peuvent plus aller aux États-Unis avec leur argent, parce que euro contre dollar, on s'en sort plus.
Bon,
outre l'inflation américaine qui fait que les prix ont augmenté. Et bientôt, l'histoire des Gaulois qui crapahutent de par le monde en Asie...
Ils iront crapahuter dans la Creuse. Hein. J'ai rien contre la Creuse, mais le Massif central, c'est très beau le Massif central.
Ils iront voir le Vulcania.
Oui, ils iront voir Vulcania, ou ils pourront aussi aller voir l'église du Puy, qui est superbe.
Voilà, il va falloir redécouvrir les joies de...
Il va falloir découvrir les joies du camping sauvage en France. Quoi. Mais ils risquent de rencontrer beaucoup de Chinois. Hein. Qui seront en train de se promener aussi.
Moi, tu parles, les Chinois, eux, ils seront à Saint-Tropez. Ils pourront plus le payer.
Voilà, ils pourront se le payer.
Non, pas que ce soit grave, parce que les rares fois où j'y suis allé, j'ai trouvé ça horrible.
Oui, tout à fait vrai. Bon, donc, résumons-nous. Ce que je dis, c'est qu'il y a trois systèmes. Le système monétaire, le système financier et le système économique. Notre système monétaire en Europe et aux États-Unis est en train de sauter. Il est en voie de sauter. Donc, Ça veut dire que dans le système financier de ces zones-là, vous ne pouvez pas avoir de contrats qui sont rédigés avec la monnaie du système monétaire qui va sauter. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des actions ou de l'or. L'immobilier, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut l'acheter dans un endroit où ça coûte pas trop cher et c'est hors de prix. Donc peut-être vous pouvez acheter de l'immobilier en Italie, je sais pas. Je connais pas l'immobilier italien. Et mais vous savez qu'il y a un accident dans le système monétaire qui va arriver et que ça va impacter énormément le système financier et à terme le système économique. Donc plutôt que vous embêter, vous allez investir dans le système financier monétaire, le nouveau qui arrive et qui est stable, qui est autour de la Chine. Ça me paraît raisonnable.
Cousu de fil blanc.
Donc c'est pas être pessimiste ou optimiste. Moi, vous savez, il y a des gens qui me disent mais vous vous êtes trompé sur Trump et tout. J'ai dit écoutez Trump, moi.
Ouais, t'es pas coach de vie non plus. Hein.
Non, mais c'est pas ça. Ce que disait Keynes, c'est que quand on lui disait vous avez changé d'avis, vous avez changé d'opinion, il disait monsieur, les événements ont changé, donc je change d'avis. Ouais. Trump, j'étais persuadé qu'il allait faire la politique.
Ce qu'il nous avait dit, il nous avait dit qu'il ferait forteresse America. Donc il nous avait dit, voilà, nous on va se replier dans notre côté du monde. Il n'y avait pas cette histoire de doctrine d'Unro et ainsi de suite. Et on va décélérer la guerre en Ukraine, on va se retirer nous des bases américaines et tout. C'est ce qu'avait dit monsieur Vance.
Et on va baisser le budget.
Oui, bien sûr, parce qu'on avait masque.
Et maintenant on avait masque. Mais non, d'abord, on va baisser les dépenses militaires américaines.
Et les dépenses tout court.
Et pas et du tout. Bam, il nous met les dépenses militaires de 1 000 à 1 500 milliards. Donc vous dites, monsieur Trump a changé, je me suis fait avoir, j'ai écrit ce qu'il disait.
D'ailleurs, pardon de vous dire, mais il y a toute une base MAGA qui n'est pas ravie. Mes petits-neveux qui avaient voté pour lui parce qu'ils sont américains ne sont pas ravis de ce qu'ils voient. Voilà,
On se retrouve, on s'est fait avoir, mais alors...
C'est pas grave, hein, c'est pas le premier, c'est pas le dernier.
Non, c'est pas la première fois que je fais avoir par un homme politique.
C'est avoir par Sarko, très bien aussi.
Oui, Sarko, j'ai jamais cru, moi.
On n'y a jamais cru, mais on pensait pas qu'on allait se prendre une praline à hauteur de ce qu'on s'est pris avec Lisbonne.
Non, on n'en pensait pas qu'il était à ce point.
Voilà, on n'allait pas.
Chirac, j'y ai jamais cru non plus. Donc,
non,
si vous voulez,
Chirac, surtout la deuxième fois, on s'est dit, allez.
C'était le vieux gâteau. Bon, donc voilà. Tout ce qu'on essaye de faire, comme dit mon cher fils, c'est qu'on n'est pas là pour faire des prévisions, on est là pour s'adapter. Donc, on continue à s'adapter, quoi, c'est tout. Quoi. Voilà.
Mais écoutez, merci beaucoup à nouveau de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Et encore une fois, on a eu un petit beagle très sage qui vous salue.
Mais il sent qu'il est l'heure.
Hein. Il sent qu'il est l'heure. Dès qu'on change le ton de voix, il sent.
Oui.
Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.
Voilà, merci beaucoup.